bonjour et bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas, mais rapidement, hein, à la tradition, en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission dédiée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et ce jour, eh bien, ce sera de manière chantée, puisque nous allons faire dans le folâtre et un peu dans l'émotion, et nous allons évoquer quelques grandes chansons de films. D'ailleurs, les films ne sont pas forcément marquants, les musiques de ces films ne sont pas forcément marquantes, mais dans ces films, eh bien, il y avait une chanson, et je veux espérer qu'au moins pour certaines d'entre elles, eh bien, vous ne les aurez pas oubliées. Et on va commencer en 1968, année plus ou moins bénie, pour un film de Norman Jewison qui réunissait dans les rôles principaux Steve McQueen et Faye Dunaway. L'inoubliable Faye Dunaway de Chinatown ou de Bonnie and Clyde, pour un film intitulé L'affaire Thomas Crown, une comédie policière sophistiquée dans laquelle on voyait Steve McQueen, alias Thomas Crown, tout à fait riche, mais malgré tout préparant le hold-up du siècle, tout simplement parce qu'il s'ennuie, comme c'est beau. Vraiment, dans les années 70, il n'avait que ça à faire. Et le tout est très sophistiqué, très réussi, très bien joué, très bien filmé. Mais Norman Jewison, en tout cas, c'est ce que l'histoire raconte, à la fin du tournage, eh bien, se trouva avec une montagne de pellicules sans trop savoir comment il allait la monter. Parfois, ça arrive, ce genre de choses. Survint alors un Frenchie. Eh oui, Michel Legrand, notre grand Michel Legrand, qui, dans les années 70, donc là, le début des années 70, débutait une carrière américaine et qui dit à Norman, eh bien, Norman, ne t'inquiète pas, tu montes comme tu veux et c'est la musique qui fera le lien. Eh bien, ma foi, ça a réussi, puisque la musique de l'affaire Thomas Crown est une des plus réussies de celle de la carrière américaine de Michel Legrand. Et parmi, je dirais, les joyaux de cette musique, eh bien, il y a une chanson. Une chanson, et forcément, vous ne l'avez pas oubliée. J'espère, en tout cas. Écoutez ça.
Like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
The Windmills of Your Mind, les moulins de mon cœur en français. J'espère que ça vous rappelait quelque chose. La chanson de l'affaire Thomas Crown, un film de Norman Jewison, une musique et une chanson de Michel Legrand en français. Ben, figurez-vous que c'est Mireille Mathieu qui s'y était collée, mais on est dans les années 70, je vous le rappelle. Le film, c'est vraiment une délicieuse comédie et en plus avec des, je dirais, une mise en scène très sophistiquée, puisqu'il y avait ce qu'on appelle des split screens, c'est-à-dire qu'on voyait plusieurs actions déroulées en simultané sur l'écran. Maintenant, on est habitué aux actions en simultané, mais enfin, les plans changent. Il faut dire que maintenant, les plans font 3 secondes, alors qu'à l'époque, ils faisaient peut-être 10, 15 secondes. Et le résultat était vraiment très, très réussi. Steve McQueen et Faye Dunaway formaient un couple, même si le mot est un peu mal choisi. Tout à fait charismatique. On nous a fait un remake dans les années 90, si je me souviens bien, de l'affaire Thomas Crown avec Pierce Brosnan succédant à Steve McQueen. Je ne sais pas qui succédait à Michel Legrand, mais c'était tout pourri. Il faut bien le reconnaître. On va rester dans les chansons cool des années 70 avec un film, alors finalement tourné avant. Bon, c'est une émission un peu folâtre, donc pas d'ordre chronologique que ce jour. Un film de Vincente Minnelli tourné en 1965 avec là encore un couple charismatique. Mais alors là, un vrai couple charismatique, Elizabeth Taylor et Richard Burton, dont il n'est pas besoin de préciser qu'ils furent à l'écran comme à la ville, un des couples fameux du cinéma. Ils ont divorcé et se sont remariés je ne sais plus combien de fois. Ils ont tourné, ma foi, un bon paquet de films ensemble, si vous me passez l'expression, au moins une demi-douzaine, et au moins une demi-douzaine où ils étaient tous les deux en vedette avec cette ambiguïté troublante qui consiste à voir deux acteurs s'aimer à l'écran tout en sachant qu'ils s'aiment hors de l'écran et que par conséquent il y a une sorte de frontière un peu floue entre la vie privée et la vie cinématographique des personnages dont les scénaristes peuvent jouer. Et c'était le cas de Dalton Trumbo, qui est l'auteur du scénario du Chevalier des Sables, puisqu'on y voyait donc Elizabeth Taylor incarner le rôle d'une femme peintre quelque part sur la côte californienne, là où on fait du surf, et qui tombait évidemment amoureuse d'un pasteur épiscopalien incarné par Richard Burton. Alors je reconnais que Richard Burton et pasteur épiscopalien, ça fait un peu bizarre, le film aussi, mais c'était pas grave. Il y avait aussi d'autres choses bizarres dans ce film, notamment la présence de Charles Bronson dans un petit rôle. Et là encore, la musique du film, elle a été signée de Johnny Mandel, et là encore, il y avait une chanson, mais une chanson. Allez, je vous la laisse écouter, on verra après dans 24 notes secondes.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star was found. Teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering. Shadow of your smile.
On aimerait que ça dure toujours, en tout cas un peu plus longtemps. Un extrait de la bande originale du Chevalier des Sables, The Shadow of Your Smile. interprété par Randy Williams et ses copains. Une musique de Johnny Mandel pour un film qui réunissait Elizabeth Taylor et Richard Burton, quelque part sur la côte californienne, avec Elizabeth Taylor qui interprétait une jeune femme de 26 ans, alors que l'on avait peut-être pratiquement le double, mais c'est pas grave, c'est du cinéma. Et Richard Burton qui jouait Richard Burton, il faut bien le reconnaître. Le film cumulait les invraisemblances. On peut imaginer que le milieu des beatniks, puisque c'était à cette époque-là, tel qu'il était décrit, était proche du ridicule, mais c'est pas grave. Il y avait Elizabeth Taylor et il y avait The Shadow of Your Smile. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Comme quoi, la musique, elle peut faire beaucoup pour un film et parfois sauver ce qui ne peut pas l'être, pense-t-on. On va rester dans notre série chansons de cinéma, mais on va passer à tout à fait autre chose. Je vous préviens d'avance, ça va être un choc. On va écouter une chanson extraite de la bande originale d'un film tourné en 1966 par René Clément. Ça s'appelait « Paris brûle-t-il » et c'était inspiré d'une histoire de Dominique Lapierre et Larry Collins qui racontaient à leur manière le récit de la libération de Paris du 8 au 25 août 1944 avec les menaces allemandes de faire sauter les ponts et surtout les principaux monuments de Paris, le fait que finalement le commandant de la place y renonça bien que Hitler lui en ait donné l'ordre et l'arrivée triomphale des troupes américaines, tout ça. L'occasion, comme souvent, d'une super production de 3 heures, excusez du peu, dans laquelle on retrouvait des acteurs connus dans le rôle de personnages connus, ce qui est toujours assez rigolo, par exemple, voir Alain Delon dans le rôle de Chaban Delmas, même si les jeunes générations ne savent plus qui est Chaban Delmas, cela valait son pesant de cacahuètes, de même Claude Rich dans le rôle du général Leclerc, mais là encore, plus personne ne sait qui c'est. En tout cas, je l'ai esquissé, il y avait énormément de vedettes françaises et américaines, c'était l'avantage aussi de ces super productions, et on retrouvait côté français, j'en cite juste quelques-uns, Jean-Paul Belmondo, en plus d'Alain Delon, il y avait aussi Charles Boyer, à moitié français, à moitié américain, Claude Dauphin, et du côté américain, il y avait aussi Yves Montand, pardonnez-moi, et du côté américain, il y avait Kirk Douglas, Anthony Perkins et Orson Welles, qui jouaient le rôle du consul Nordling, qui, soi-disant, l'histoire est depuis controversée, contribua à ce que les monuments de Paris fussent sauvés. La musique de ce film a été signée de Maurice Jarre, ce qui paraissait là encore un choix tout à fait logique, un compositeur français, mais avec une brillante carrière américaine. Et à la fin de ce film, il y avait une chanson, mais une chanson, dans 24 notes secondes.
Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille. Quand Paris est en danger.
Ah ben je vous l'avais dit, après Michel Legrand et Andy Williams, ça fait un choc, mais c'était bien Mireille Mathieu dans la chanson finale, et c'est bien la chanson finale, je suis désolé, de Paris brûle-t-il, un film de René Clément tourné en 1966, avec les musiques de Maurice Jarre, et puis ma foi, pourquoi pas Mireille, après tout, hein, qui pouvait mieux interpréter la chanson de la libération de Paris qu'elle. Le film était parfois un peu lourd, un peu long aussi, 3 heures je vous l'ai dit, mais... c'était quand même plutôt réussi. On va rester dans la chanson, mais alors là, on va passer à quelque chose de complètement différent. Et on va déjà sauter les années, puisqu'on va se retrouver en 1983, quelque part, à mi-chemin du disco, de l'aérobic, du jogging. Il se trouve que Flashdance, c'est le film que nous allons évoquer, ben, il est lui aussi à mi-chemin de tout ça, du disco, de l'aérobic, tout ça. Mais en fait, le film, il n'a qu'un seul intérêt, à part la chanson, bien sûr, que nous allons écouter après. Mais c'est un intérêt, comment dire, majeur. C'est Jennifer. Jennifer Beals, l'interprète principale de ce film, un ancien mannequin choisi parmi 4000 postulantes, mais ma foi, ce fut le rôle de sa vie. Ce fut le rôle de sa vie, en fait, puisqu'après, Jennifer Beals fera une carrière un peu en dents de scie, alors que le film, lui, connaîtra un très, très grand succès. Mais quand je renvoie la photo de Jennifer Beals sur ma petite fiche, eh bien, on ne peut que fondre. Et dans ce film, il y avait une chanson, mais une chanson, dans 24 notes secondes. certaines choses ne changent pas. Et c'était le cas de la bande originale de Flashdance avec What a Feeling, une chanson musique de Giorgio Moroder, plus connu sans doute pour avoir été le compositeur de la musique de Midnight Express, pardonnez-moi. Et c'était Irène Cara qui chantait, mais qui pouvait avoir oublié Irène Cara de la même manière que qui peut avoir oublié la délicieuse Jennifer Beals, à laquelle quelques années plus tard, Nanni Moretti lui-même rendra hommage dans un de ses films, puisqu'il la rencontre dans les rues de Rome et que quasiment il est à genoux devant elle. Eh bien moi, ce serait pareil, Jennifer. Même après toutes ces années, si jamais tu étais devant moi, je serais à genoux. Par contre, Jennifer, il faut quand même que je casse un mythe. Là, en direct, dans 24 notes secondes, ce n'est pas toi qui danse dans Flashdance. C'est une de tes copines, Marine Jahan, une Française. Eh bien oui, on est bien désolé, mais on ne peut pas être belle et autre chose. Oula, ça, j'aurais pas dû le dire. On va le couper au montage après, mais ne vous inquiétez pas, voilà. C'est l'émission de ce jour, donc on se laisse un petit peu aller et on va rester dans notre côté icône de la chanson et icône tout court, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film que je n'ai pas besoin de vous présenter, je pense, c'est le Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, j'allais dire dans le rôle principal. Non, c'est le Titanic qui a le rôle principal, enfin, en tout cas dans un des rôles de ce film super production, catastrophe annoncée et qui se révéla être certainement l'une des production les plus rentables de toute l'histoire du cinéma, un méga film sur lequel tout a déjà été dit et je ne vois pas très bien ce que je pourrais y ajouter, si ce n'est que la musique en a été signée de James Horner, il ne faut quand même pas l'oublier, qu'elle obtint l'Oscar, mais ma foi, je crois que cette année-là, Titanic obtint pratiquement tous les Oscars puisqu'il combinait à la fois les vertus du film qui a marché et, sans être un film d'art essai, loin du compte, un film relativement raffiné avec beaucoup de recherches dans les décors, tout le reste, et puis donc la musique. Et puis évidemment, dans ce film, il y avait une chanson, mais une chanson dans 24 notes secondes.
Go on. Why does the world go on?
Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est que vous venez de la planète Mars, My Heart Will Go On, Céline Dion, James Horner, un extrait de la bande originale de Titanic, et quoi de mieux que de se quitter sur une chanson qui est le générique de notre film, de notre émission, pardonnez-moi, ça tombe bien, le fameux Moon River d'Henry Mancini dans Diamant sur canapé 1962. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.